9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, je suis très content de vous retrouver pour passer cette heure de santé avec vous, de conseils et de bien-être. Et j'ai invité ce matin un médecin de famille, c'est le docteur Bruno Front. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, vous êtes médecin généraliste, mais vous vous définissez comme un médecin de famille. Hein.
Oui, on peut dire ça. Enfin, je me suis trouvé être un médecin de famille et avoir été amené à rencontrer plusieurs générations depuis maintenant 40 ans que je pratique cette médecine.
Hmm. 1985, vous vous installez dans le 5e arrondissement de Paris. Mais avant, vous aviez commencé par la médecine d'urgence. Hein, vous étiez urgentiste pendant quelques années.
En effet, j'ai fait mon service militaire au SAMU. Et ensuite, j'ai fait les urgences médicales de Paris pendant 3 ans. Et ensuite, octobre 1985, Paris 5e.
C'est une installation. À noter qu'aujourd'hui, vous consultez toujours. Hein ?
Oui, je suis officiellement à la retraite. Mais je fais ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite. Et donc, je travaille toujours, disons, un mi-temps à 45 heures par semaine.
Je crois que vous travaillez 65 heures par semaine.
70.
Oui.
Oui.
Tout augmente.
Maintenant, c'est 45.
Ah, maintenant, c'est 45. C'est, en fait, 70 heures, c'est le temps que vous consacriez quand vous êtes en activité, c'est ça ?
On peut dire ça.
Bien. Vous racontez votre histoire dans un livre qui s'appelle « Toute une vie pour eux » aux éditions Iconoclaste. À quel genre votre livre appartient-il ? Est-ce que c'est une biographie, une galerie de portraits ? Comment vous le définissez comme objet ?
Je saurais le dire, c'est surtout une somme d'histoires, c'est une somme de rencontres surtout, c'est une somme d'inattendus, donc je ne saurais pas le qualifier.
Mmh. Ça fait 40 ans que vous pratiquez la médecine, et pourtant vous n'êtes pas ce qu'on appelle un enfant de la balle, vous n'êtes pas issu d'une famille de médecins que vous avez votre papa.
Mon père était ingénieur. J'appartiens à une famille nombreuse puisque je suis le 10e de 11 et mes frères étaient ingénieurs, j'ai des sœurs profs de maths, enfin quelque chose d'assez scientifique, rien de tout ça pour moi.
Vous deviez être footballeur.
C'est pas que je devais, c'est je voulais être footballeur. Et puis les circonstances ont fait que, très intelligent comme adolescent, il faisait très chaud et j'ai donc décidé un soir de mettre des glaçons sur mon thorax d'athlète. Le lendemain, 42 fièvre, pneumonie, je me retrouve aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Et aux surprises, c'est une ruche où beaucoup de gens s'agitent, mais on a pris soin de moi, on s'est occupé de moi. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, on m'a donné des antibiotiques déjà à l'époque et j'ai guéri très vite. Je me dis, c'est quand même assez étonnant ce monde-là. Et donc, peut-être est-ce ça qui m'a conduit à vouloir être médecin.
C'était quoi l'idée avec les glaçons ?
Ah ben c'était me rafraîchir, enfin c'était n'importe quoi, comme on peut faire des bêtises.
Ah, je ne savais pas qu'on pouvait attraper une angine en faisant ça.
C'était pas une angine, c'est une pneumonie.
Ah, une pneumonie, ouais. Et ensuite, vous retournez à l'hôpital quelques temps après, d'ailleurs.
Oui, là, c'était une bêtise, c'était un abcès de la joue, que j'ai appelé abcès de fixation, et je crois que c'était la deuxième sommation, et la fin de ma carrière de footballeur.
Vous retournez à l'hôpital aussi, à ce moment-là.
Oui, encore une urgence, mais pour la journée, pas pour être hospitalisé.
Mais à quel moment vous décidez de devenir médecin à ce moment-là ?
Ben, il faut bien faire quelque chose. Vous faites le deuil du football et tout d'un coup, vous découvrez un monde. Et puis, dans ma classe, avec des amis, on trouvait que ça pouvait être bien d'être médecin. Donc,
comme ça ?
Comme ça.
Le problème, c'est que médecin, il faut en vouloir. Faut intégrer l'école de médecine.
Oui, bien sûr. C'est à l'époque, le numerus clausus se mettait en place et donc.
Alors pour tout le monde, c'est quoi le numerus clausus ?
Le numerus clausus, c'est une chose tout à fait extraordinaire, une invention qui a été mise en place dans le début des années 70, puisque j'ai passé mon bac en 72 et j'ai été en première année de médecine en 72. C'était l'idée tout à fait formidable que s'il y avait moins de médecins, il y aurait moins de prescripteurs. Et moins de prescripteurs, moins de prescriptions, et donc moins de dépenses. Donc c'était assez formidable. Je crois quand même que les médecins de l'époque ont été un peu des collaborateurs dans cette histoire, puisque finalement, ils n'avaient pas envie de partager le fromage, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de médecins. Donc il y a une association d'une volonté économique de l'époque, d'un certain corporatisme, on pourrait dire. Enfin, toujours est-il que j'ai été reçu du premier coup.
Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est que la pénurie de médecins vient de cette époque-là où on s'est dit, il y a trop de médecins, et trop de médecins, c'est trop de patients.
Non, c'est plus complexe. En effet, aujourd'hui, on paye très cher la situation, puisque pour former un médecin, il faut 10 ans. Et donc, le numerus clausus a refermé. On est passé quand même de 10 000 médecins formés par an à une époque où on en formait 3 000. Bon, donc il y a déjà cette question. Il y a la deuxième chose qui se passe, c'est que la médecine s'est considérablement complexifiée. C'est-à-dire que avant, une grande partie des médecins étaient face aux malades. Maintenant, il y a énormément de spécialisations et la médecine a fait des progrès colossaux, mais certains vont ne faire que de l'échographie, d'autres que du scanner, d'autres que du genou droit, d'autres du genou gauche. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais c'est, donc,
elle s'est codifiée, c'est les actes, vous voyez,
chacun fait
un acte.
C'est possible, vous pouvez parler de codification des actes. Bon, il y a déjà ça. Il y a une troisième chose qui me semble importante, c'est que, en dehors de la baisse du nombre de médecins, c'est que la médecine s'est aussi spécialisée. Maintenant, quand vous allez faire une intervention programmée, vous allez faire un nombre d'examens colossaux parce que il y a l'obligation de moyens. Donc vous allez voir un grand nombre de spécialistes pour préparer cette intervention. Il faut lui dire qu'il y a 40 ans, on n'avait pas toutes ces précautions. Et puis, il y a aussi il y a beaucoup d'éléments. Et il y en a un autre qui n'est pas négligeable. Je l'évoque dans mon livre, mon premier remplacement à la campagne, je remplaçais quelqu'un qui travaillait 24 heures sur 24, pardon, 7 jours sur 7.
Enfin, qui était disponible, enfin, on va dire.
Qui était disponible, voilà. Mais enfin, bon, il était là, à la campagne. J'ai fait ça pendant un mois, j'étais tout à fait étonné. Si on m'avait su que j'allais faire ça, j'y serais pas allé. Mais je l'ai fait. J'en étais très fier, mais en me regardant un petit peu, je dis, non, mais Bruno, tu vas pas tenir le coup. Donc j'ai pris une décision, j'ai dit, tu ne travailleras que 2 heures par jour, 6 jours sur 7. Ce que j'ai fait pendant 40 ans. Quand je dis ça à mes jeunes collègues, ben, ils rigolent. Mais sans doute ont-ils raison. Nous, notre identité, c'était médecin. Eux, ils sont médecins, mais ils ont d'autres intérêts, d'autres intentions dans la vie. Donc, pour me remplacer, j'en fais aucune gloire, mais il en faudra deux et demi peut-être.
C'est intéressant parce que votre premier remplacement, le gars, il était aussi médecin des pompiers, quoi. Donc en fait, c'était le gars, il faisait tout. C'était le médecin du patelin, en fait.
Oui, non seulement il était médecin des pompiers, mais il me l'avait pas dit. Donc je l'ai découvert à l'occasion d'une
sirène.
Des trois coups des pompiers. Trois coups de la sirène et le camion de pompiers qui s'arrête devant le cabinet et les pompiers qui viennent rapidement me dire « Mais c'est vous le remplaçant ?» Je dis « Oui, mais alors qu'est-ce que vous attendez ?» Il y a un agriculteur qui est coincé sur la route de son tracteur. On y va. Ah, oui, j'ai laissé la salle d'attente où il y avait déjà 10 personnes qui attendaient et j'y suis allé. Bon, c'est un autre monde.
Ça ne vous a pas donné envie d'épouser cette vie-là ? À la campagne, en ruralité, non ?
Vous savez, je vais dire quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas si j'avais des envies. C'est les circonstances qui m'ont mené là où je suis. C'est les circonstances de rencontre. J'aurais pu très bien m'installer là, mais finalement, j'étais à Paris. Voilà, c'est ça qui m'a mené. C'est ces rencontres, l'inattendu, les circonstances.
C'était pas une vocation chez vous, d'être médecin. Mais ça l'est devenu.
Non, j'irai plus loin. Je ne crois pas que j'ai la vocation d'être médecin.
Ah bon ?
Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir la vocation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rencontrer les gens. Je l'évoque dans mon livre, pendant mes études. Je n'avais pas un intérêt majeur pour la science, tout ça, comme je l'ai évoqué.
Alors, en quatrième année, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En quatrième année, je suis reçu brillamment à un des ce qu'on appelait les certificats à l'époque, donc l'urologie et la néphrologie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression de ne rien savoir. Je ne savais rien. Et je me dis, mais peut-être que tu ne vas pas réapprendre ces choses-là, et donc que tu vas aller travailler en ayant validé une spécialité, en tout cas une connaissance dans un monde de la médecine, et tu ne connais rien. Donc j'ai pris une décision à ce moment-là, contrairement à certains de mes collègues qui ont continué à travailler particulièrement les études. Moi, je parasitais toutes les consultations.
Ça veut dire quoi, parasiter ?
Parasiter, c'est-à-dire que dès que quelqu'un m'acceptait, j'allais en dermato, j'allais en urologie, j'allais en consultation voir comment ça se passait pour voir les malades. Bon, j'ai appris beaucoup. Bon, j'ai passé les examens, j'ai appris ce qu'il fallait apprendre pour passer l'examen. Et je crois quand même que les gens ont la faiblesse ou la gentillesse de dire que je ne suis pas un mauvais médecin et qu'un bon clinicien et que je n'ai pas toujours un mauvais diagnostic, voire mieux. Mais ce qui m'intéresse, et je crois que ça parcourt le livre, c'est effectivement les rencontres des gens, l'inattendu de la rencontre.
Humour de médecin, tiens. Est-ce que vous savez quelle est la différence ou quel est le point commun entre le Covid et un parasite ?
Eh bien non.
C'est la perte de goût.
Ah oui, mais là, vous voulez m'engager à une certaine histoire.
Là, je voulais voir si vous suiviez, en fait. Non, je ne vais pas spoiler le livre.
Très bien.
Mais il y a un point commun entre le parasite et le Covid.
Oui, il y a la perte
de goût et d'odorat.
Et d'odorat.
Hein,
c'est enfin, dans la première vague de Covid, parce que maintenant, les gens perdent plus le goût et l'odorat, c'est autre chose, mais ce n'est pas grave.
Oui, donc j'aurais dû préciser pour être plus juste dans le Covid première génération.
Première génération.
Oui, parce que maintenant on s'isole plus. Vous avez vu les dernières directives, on s'isole plus.
Bah oui, pour l'instant, il semblerait qu'il ait envie d'aller se promener ailleurs, ce Covid. Mais bon, on verra.
Bon, allez, on parle de votre livre, c'est votre témoignage. Toute une vie pour eux, le docteur Front, médecin de famille et l'invité d'AVS jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Bruno Front, qui est notre invité ce matin. C'est un médecin de famille installé dans le 5e arrondissement à Paris et qui publie le roman de sa vie qui s'appelle Toute une vie pour eux aux éditions. Ça vous va bien d'ailleurs, hein, de l'iconoclaste. Ce qui est fou, c'est que quand vous vous installez en 1985, il y a trop de médecins. Il y a trop de médecins. À cette époque-là, c'était l'époque où il fallait se faire une clientèle, une patientèle, comme on disait. Et vous racontez comment vous arrivez à vous constituer votre patientèle grâce à des dames. Enfin, d'abord, il y a votre premier patient. Qui c'était votre premier patient ?
Ah bien, c'était, oui, le samedi d'avant mon installation. Je commençais le lundi 1er octobre 1985. Et avec mon frère, on pose la plaque en bas de l'immeuble. Je remonte avec le tournevis encore en main. Et ça sonne. Bon, j'ouvre et arrive un homme... respirant difficilement, le visage bouffi, et visiblement, je comprends tout de suite qu'il a un œdème de Quincke. Il me dit, c'est vous le docteur ? Je dis, oui, mais je ne peux pas travailler, je commence que lundi. Devant cet homme en difficulté, je fais ce que j'avais à faire. J'avais une certaine expérience avec le SAMU et l'urgence médicale de Paris. Et donc, je fais un corticoïde injectable et un antihistaminique. Il met une bonne demi-heure à aller mieux, et puis il se remet. Et le concours circonstances, le hasard a fait que c'était un commerçant du quartier.
Il ne vous a pas payé, hein ?
Ben, il m'a dit combien je vous dois. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas me payer puisque je commence que lundi. J'ai pas le droit de travailler.
Et vous avez fait une campagne de pub.
Il a fait une campagne de pub. Ça n'a pas été le seul, d'ailleurs.
Mais c'est ça qui est drôle. Cette anecdote, elle est incroyable.
Alors, le lundi matin, donc, je suis prêt, j'attends. Parce qu'en effet, à l'époque, il fallait faire son trou. Il fallait trouver sa place. Et j'avais même fait un business plan. J'avais dit, le premier mois, il faut un malade par jour. Le deuxième mois, deux malades par jour. Bon, ça me permettait d'envisager quand même une progression et puis de faire face à mes frais. Et voilà que la salle d'attente étant vide, j'attendais avec une certaine impatience. Je ne sais pas pourquoi, sans vraie, réelle inquiétude. Toujours est-il que se présente une petite dame qui me dit, écoutez docteur, je suis une femme de confiance, je fais confiance, mais vous voyez, avec le temps, j'enterre tous mes médecins. Alors, madame, si vous enterrez tous mes médecins, permettez-moi de réfléchir avant de... Mais non, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, tout devrait bien se passer. Bon, embarqué par son enthousiasme, je l'accueille, je résous la question médicale qui était assez simple. Et elle me dit, alors donc, vous me prenez bien comme patiente, comme médecin traitant ?
Bah, je dis, ça existait les médecins traitants à l'époque ? Non, ça n'existait pas. C'était
enfin,
avant le parcours de soins. Là.
Avant le parcours de soins. Je cherchais un médecin. Ouais. Bon. Et puis, juste avant de partir, sur le pas de la porte, me dit, vous savez, avec ma copine, on a du temps. Si vous voulez, on peut venir dans votre salle d'attente et puis on dira aux gens que vous êtes quelqu'un de formidable. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous me racontez là ? C'est sérieux ? Oui, oui, c'est sérieux. Avec ma copine, on viendra avec le crochet. Bon. Je ne savais pas si c'était vrai, mais le mardi, elle était là. Et c'est ainsi que pendant un certain temps, tous les après-midi, elle animait ma salle d'attente. Et puis, elle parlait de moi chez le boucher, chez le boulanger, ou lors d'une séance crochet à la boutique Fil d'Art, bien connue dans la rue Monge. C'est ainsi que, finalement, elles sont venues très régulièrement. Mais finalement, mon business plan était un peu bas. J'ai assez vite fait mon trou, si on dirait, et sans doute peut-être grâce à elles. Et au bout de 2-3 mois, elles sont parties. Elles m'ont dit, docteur, je crois que maintenant vous êtes lancé. On peut vous laisser tranquille. Et elles sont allées butiner ailleurs.
Vous savez que cette histoire, elle est tellement incroyable qu'on se dit, c'est pas possible. C'est un travail de romancier.
Écoutez, En effet, cette question, on me l'a posée, d'ailleurs, pas pour cette histoire seulement, pour l'ensemble du livre.
Oui, pour toute la galerie de portraits dans votre
mais, livre. Mais, si vous voulez, j'ose dire, et je l'ai déjà dit, je n'ai pas assez d'imagination pour inventer de telles histoires. Donc, tout est vrai, au mot près. Évidemment, j'ai fait en sorte que les gens ne se fassent pas reconnaître, mais comme il y a beaucoup de personnes âgées depuis le temps, certaines nous ont quittés. Et puis, j'ai quand même demandé l'autorisation à quelques personnes, en leur lisant le texte, si elles souhaitaient ou elles acceptaient, sans qu'on les reconnaisse pour autant.
En 85, le jeune médecin que vous êtes qui s'installe attend le patient. Aujourd'hui, c'est combien de visites par jour?
Si vous voulez...
De consultations, aujourd'hui, c'est combien?
Bon, j'ose dire, et là, ça va être tout à fait... Ça va être pris comme ça sera pris. Je crois que pendant 40 ans, j'ai vu entre 25 et 30 personnes par jour. Oui, donc ça fait du monde. Mais je commençais à 8 heures le matin et je finissais à 8 heures le soir. Donc si vous regardez...
Par rapport à ce que disent la jeune génération, ça ne me paraît pas beaucoup, hein, 25 à 30, je dis tout de suite.
Il a pu arriver 40 en épidémie, mais 30, on va dire 30, oui.
Et vous avez continué à faire des visites de domicile que beaucoup de vos confrères vont abandonner parce que ce n'est pas rentable, en fait.
Bon, la question, elle est simple. Aujourd'hui, la consultation est à 25 euros. La visite est à 35. Vous faites 3 visites, 3 consultations, pardon, quand le temps d'une visite. Donc, concrètement, vous perdez de l'argent, puisque c'est 75 contre 35. Mais j'ai jamais pu raisonner comme ça. Ceci dit, dans les contextes actuels des revendications et des justes revendications des médecins, je propose la visite à 80 euros. La visite, pas la consultation, puisque c'est par rapport à ce que je viens vous dire.
J'ai bien compris.
Est-ce que ça suffira pour que les jeunes médecins aillent faire des visites? Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça, ils ne savent pas ce que c'est, et surtout ils ont l'habitude de travailler en équipe. Et alors, aller se retrouver tout seul auprès de quelqu'un à domicile, c'est pas évident. Quand ils sont dans les maisons médicales, dans les cabinets médicaux de groupe, là, ils peuvent aller demander de l'aide à un ami, à un collègue, tout ça. Là, se retrouver seul, c'est ce qu'on a fait, nous. On a travaillé seul, en lien avec nos collègues lors de réunions médicales. Mais c'est toute une autre culture. Je ne juge pas. Simplement, je leur dis à mes jeunes confrères, à mes jeunes consoeurs, vous perdez une chance extraordinaire.
Parce que vous aimez les visites à domicile. Hein. Qu'est-ce que ça vous apprend finalement sur la vie?
Mais c'est assez simple. Quand quelqu'un se déshabille dans votre cabinet, vous n'avez rien vu. Rien. Quand quelqu'un vous ouvre la porte de sa maison, quand quelqu'un vous ouvre la porte de sa chambre à coucher, c'est une toute autre intimité qui vous est livrée et aussi des apports cliniques très importants. Et puis, avec le temps, ma patientèle a donc vieilli, a pris de l'âge. Bon, j'ai connu des gens dans la force de l'âge qui avaient 60 ans, ils en ont aujourd'hui 90. Heureusement, encore beaucoup montent mes escaliers en courant à 90 ans, mais beaucoup sont maintenant dans l'impossibilité de se déplacer. Voilà, je ne vois pas comment on ne peut pas imaginer faire des visites aujourd'hui, mais malheureusement, c'est une réalité. Et je dirais même que c'est aussi quelque chose qui permet de faire une économie. Quand vous allez voir les gens à domicile, vous pouvez éviter les hospitalisations, vous pouvez éviter des surcharges de soins. Et puis, il y a une autre chose qui se perd aujourd'hui, ce sont les gardiennes d'immeubles. La loge est vendue pour un studio et tout ça. Bon. Mais la gardienne d'immeuble qui allait s'occuper 3 fois par jour de la personne du 6e otage dans la chambre de bonne, elle évitait une hospitalisation. Elle lui permettait. Elle m'appelait, elle me disait où est-ce que cette personne en était. Aujourd'hui, les services d'aide à domicile sont formidables. Les gens sont dévoués. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous appelez de l'aide. Vous avez quelqu'un qui vient apprécier la situation. Ensuite, vous avez une deuxième personne qui va voir comment on va financer, combien ça coûte, comment on va le financer. Une troisième personne qui va venir pour l'ergothérapeute, pour la mise en place. Enfin, il y a toute une équipe et bon, ça marche, mais c'est jamais les mêmes personnes. La gardienne d'immeuble qui disparaît, c'est un médecin généraliste de moins ou une infirmière de moins dans le quartier. Mais bon, là, je ne veux pas être passéiste, mais c'est une réalité.
Non, vous n'êtes pas passéiste dans votre livre. Vous racontez évidemment votre vie de médecin.
Ce qui m'a animé, ce qui m'anime encore. Je fais une petite remarque. J'ai la peine de voir certains de mes confrères qui ont mon âge maintenant, 69 ans, et qui se sont installés, qui se sont arrêtés, qui sont aigris, qui sont fatigués, qui sont usés, qui sont rincés. J'ai la chance d'aimer encore ce que je fais. J'avais même dit, quand mon livre paraîtra, j'arrêterai la médecine générale. Parce que j'ai fait une formation autre, 2 jours par semaine, je suis maintenant psychothérapeute, psychanalyste.
C'est juste ce que vous expliquez, grâce à une patiente.
Oui, c'est vrai, je ne sais pas si vous souhaitez que j'en parle un petit peu.
Non, mais c'est grâce à une patiente qui vous a amené, voilà.
Voilà, j'ai échangé avec elle.
Bon, je ne savais pas que vous étiez devenu d'ailleurs, que vous étiez devenu psychanalyste, mais
C'est comme ça. Mais si vous voulez, j'ai la chance d'aimer encore ce métier. Et là, j'ai du mal à imaginer arrêter la médecine générale. J'ai du mal à imaginer d'arrêter les visites, ou quand même, ça commence à être difficile pour plusieurs raisons. Monter les escaliers, c'est pas toujours facile, même que si l'effort physique vous entretient finalement. Mais se garer à Paris, c'est loin d'être facile. Donc maintenant, il faut prendre un vélo. Mais est-ce que c'est pas toujours facile d'aller faire les visites en vélo? Bon, il y a tout ça. Mais sans doute, parce que j'ai pu accompagner des gens en fin de vie à domicile, il y a quelque chose chez moi qui n'a, il n'y a pas de vocation, mais aller jusqu'au bout dans des situations difficiles. Quand vous voyez des gens qui sont en train de s'étioler, d'être en fin de vie, ça ne devient supportable que si vous allez jusqu'au bout.
Avec eux. Oui, parce que être médecin, c'est aussi être confronté à la vie et à la mort. Hein.
C'est d'abord et avant tout être confronté à son impuissance. Et ça, très vite. Alors, quand j'ai fait le SAMU et les urgences médicales, on avait un peu ce fantasme qu'on allait soigner et guérir les gens. Ce qui est vrai. Les gens du SAMU font des choses formidables, les urgences aussi. Mais en tant que médecin généraliste, je fais mon travail, je fais des diagnostics, je propose des soins. Les gens guérissent, j'allais dire souvent, malgré moi. Je ne sais toujours pas pourquoi, quelquefois.
C'est peut-être la confiance qu'ils ont en vous.
Je ne sais pas. Et puis, ils sont quelquefois un peu coquins. À Noël, j'ai une vieille patiente de 90 ans qui me dit « Docteur, j'étais tellement malade à Noël que je n'ai pas osé vous appeler. » Alors, si vous voulez bien, maintenant je vais mieux, vous pouvez venir. Ça vous met devant une certaine forme d'humilité, quand même.
Bon, le docteur Front est avec nous. Bruno Front, d'ailleurs, vous ne mettez pas votre prénom sur la couverture de votre livre.
Alors, ça, c'est...
Je ne sais pas pourquoi.
J'avoue que c'est l'éditeur qui a fait ça, l'éditrice.
Je me suis dit, est-ce que c'est un surnom? Enfin, je ne sais
non,
pas, du coup.
L'éditrice a fait ça. J'ai dit, comment fait-on? Et puis, après tout, finalement, c'est vrai qu'on m'appelle docteur Front.
Donc c'est vous,
ça
docteur
correspond.
Front, voilà.
Mais derrière la quatrième de
couverture, on sait que vous appelez Bruno.
D'ailleurs, il y a une histoire où on me rappelle.
Oui, vous vous faites draguer. On ne va pas le dire comme ça, mais...
Oui, son petit nom, c'est Bruno.
Oui, on vous drague.
On me drague, ça peut arriver.
Ça peut arriver. Enfin, ce n'est pas une histoire jeune. Enfin, ce n'est pas que vous n'êtes pas beau gosse aujourd'hui. Ça, c'est une vieille histoire d'au moins 40 ans.
C'était au temps des urgences médicales de Paris,
oui, voilà, donc,
avant 1985.
Et là, à l'époque, on vous appelait Bruno. Bon, le docteur Bruno Front, donc, vient nous parler du roman de sa vie. Ça s'appelle « Toute une vie pour eux ». Et vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Je connais votre passion pour les médecins de famille, tous et toutes, puisque je lis vos commentaires sur les vidéos qu'on poste sur YouTube, et vous aimez beaucoup les médecins. Vous aimez beaucoup les médecins qui ont des dizaines d'années de pratique. Le docteur Front est notre invité, c'est l'un d'entre eux. Ce matin, il raconte dans un livre qui s'appelle « Toute une vie pour eux », sa vie de médecin généraliste et de famille à Paris, dans le 5e. Milieu plutôt privilégié quand même, Paris 5e, ou c'est une idée de dire ça? C'est un cliché de dire ça?
C'est, je pense, à la fois vrai et un cliché, dans la mesure où, aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent de partout, de banlieue. On est central, il y a les étudiants Jussieu et deux grandes universités, et donc ça m'a amené beaucoup d'une très grande diversité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est une joie pour moi et un honneur de pouvoir soigner dans un tarif conventionné, donc les questions de l'argent ne se posent pas, surtout maintenant avec une partie du tiers payant. On ne réfléchit plus à ça, et donc d'une très grande diversité, d'une très grande variété, et ça m'a beaucoup plu.
Le fait que les gens... parce que c'est important ce que vous dites sur le tiers payant, le fait que beaucoup de gens mettent leur carte et n'ont pas à payer. Vous dites que finalement, les patients sont devenus des usagers et des consommateurs de médecine. Alors, et d'ailleurs, les médecins sont devenus des prestataires de services. Ça, c'est ce que vous écrivez.
Oui, mais si vous avez lu mon livre, je le dis à travers et à partir de la téléconsultation. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre lit ou dans votre fauteuil ou devant la télé et que tout d'un coup, il vous vient l'idée d'appeler Doctolib et d'avoir un médecin qui est à Marseille, et dans, je m'amuse à dire dans mon livre, pourquoi pas un open space à l'autre bout du monde, on devient un consommateur, comme on appellerait Uber ou Allo Pizza. Non, le fait que les gens doivent se déplacer jusqu'à moi ou que moi me déplace, ça met une certaine réserve à vos propos. Mais c'est vrai, on parle beaucoup de 28 millions de consultations par an qui ne sont pas honorées, ce qu'on appelle les lapins. Donc, il y a quelques...
Vous en avez beaucoup, vous, ou votre salle d'attente est ouverte, il n'y a pas de rendez-vous, donc...
Alors, la vérité, c'est que pendant 35 ans, il y avait une porte ouverte tous les jours, et donc les gens étaient même dans l'escalier, comme à la campagne.
Mais avec ce qui résout la question des lapins, quand même.
Oui, mais avec la question de la Covid, on a dû ne plus avoir de salle d'attente.
Oui, mais c'était il y a deux ans.
Oui, mais alors je me suis mis à faire que des rendez-vous. Mais au milieu des rendez-vous, il y a ce qu'on appelle des incrustes. Donc les gens peuvent quand même débarquer. Des lapins, j'en ai pas tant que ça. Mais et peut-être que si je regardais un peu plus près, il y en aurait peut-être 3 ou 4 par semaine.
Alors, moi, j'aime beaucoup les médecins qui ont des années, des dizaines d'années de pratique, parce qu'ils ont souvent, dit-on, un diagnostic plus sûr. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez un diagnostic qui est plus sûr ? Ou vous êtes toujours dans cet état de « je ne sais rien » ?
Non, je ne sais rien. Je dirais pas ça, parce que je dois avouer qu'en ayant vu 30 personnes par jour pendant 40 ans, j'ai acquis une expérience, j'ai été piégé, je sais là où il faut faire attention. Et en tout cas, je dirais qu'à chaque consultation, dans la minute qui suit le contact avec la personne, on doit avoir répondu à 3 questions. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est urgent ? Comment on gère le temps ? Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, les gens le sentent, parce que si tout d'un coup, ils sentent que vous mobilisez et tout, et sinon, ils voient bien que, même arrivant avec une demande extrême, ils voient bien que ben là, on n'est pas embarqué par quelque chose et que rien que ça pose les choses. Maintenant, pour répondre très directement à votre question, j'ai acquis une expérience, certains disent que j'ai un bon diagnostic, pourquoi pas, mais je reste avec l'idée qu'on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose et que la vigilance s'impose toujours. Quant à dire que le médecin qui a vu beaucoup de monde est plus compétent ou plus affûté dans son diagnostic qu'un jeune médecin, on ne serait peut-être pas affûté pour les mêmes choses. Peut-être.
Vous expliquez qu'en 50 ans, les progrès techniques ont été énormes dans la médecine. C'est quoi la formation continue d'un médecin généraliste ?
Ah ben, elle est multiple, c'est celle que vous choisissez. Il y a un minimum qui est important. Moi, j'ai participé à la création d'une association médicale des médecins du 5e arrondissement. Nous nous réunissons tous les mois, donc une fois par mois pour faire venir un spécialiste ou sur un sujet. Je me réunis une fois par mois avec ce qu'on appelle les groupes de pratique, d'échange de pratique avec des collègues, c'est-à-dire on choisit une consultation du vendredi 14h au hasard et on la soumet à nos collègues et on dit qu'est-ce que tu aurais fait. Ça fait déjà 2 fois par mois. Ensuite, il fut une époque où il y avait les laboratoires qui nous invitaient. C'est fini tout ça. Alors c'était un peu ambivalent, ambigu, mais il y avait quand même des formations intéressantes qui pouvaient dériver, on sait comment. Et puis, je fais aussi un autre groupe de travail avec... donc tout ça, ça fait quand même au moins une fois par semaine une formation, donc c'est beaucoup. Et ça, c'est pas... Alors il y a les formations indemnisées maintenant qui nous permettent d'être rémunérés. Moi, je les ai jamais utilisées parce que, je sais pas, je préfère organiser des choses avec mes collègues ou dans le cadre de notre association. Mais... c'est normalement obligatoire. Il y a un fonds, on paye, on a une taxe qui nous permet de bénéficier.
Non, mais c'est pour savoir si un médecin, finalement, qui a été formé en 72, qui a fait l'école de médecine entre 72 et 80, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il est toujours au top?
Ben, s'il n'a pas été vigilant, il peut se faire dépasser. On dit qu'en 5 ans, la moitié des choses qu'on savait, il faut les réapprendre. Mais on apprend à la fois par des formations bien standardisées, bien précises, mais on apprend tous les jours en appelant nos collègues, en se faisant piéger, en disant il y a tel cas.
C'est quoi un piège, par exemple?
Un piège, se rendre compte après coup que on est passé à côté de quelque chose. Ça peut arriver. Alors, on a le droit de se faire piéger une fois, mais pas deux fois sur la même chose.
Oui, c'est ça.
On doit apprendre. Et puis là, je profite de cette occasion pour dire quand même aussi l'humilité qu'on doit avoir. Vous faites un jour quelque chose qui vous semble avoir été bien. Vous avez fait ce qu'il faut pour le patient, pour la famille, et puis on vous reproche certaines choses. Et puis une autre fois, vous dites là, j'ai pas été très très bon, là, j'aurais pu faire autrement, et vous recevez des fleurs. Donc ça montre aussi que tout ça, c'est bien complexe.
L'humilité, vous dites que c'est la base de votre métier. Et quelles sont les pathologies aujourd'hui que vous voyez, auxquelles vous n'étiez jamais confronté en 1985 quand vous vous êtes installé?
C'est évidemment toutes les nouvelles thérapies, les biothérapies, les nouvelles chimiothérapies. Il y a eu des progrès, mais absolument énormes.
Mais au niveau des pathologies, moi je pense, est-ce qu'il y a des nouvelles maladies de société que vous avez vues apparaître en 40 ans, des motifs de consultation pour lesquels on venait jamais vous voir il y a 40 ans?
Une qui est classique et évidente, c'est la souffrance au travail. Ça, peut-être que les gens souffraient déjà, mais ils ne le disaient pas, ou ils ne s'en plaignaient pas. Ou ils avaient un rapport au travail qui n'était pas le même. Donc ça, on doit faire avec ça. La dépression, l'épuisement. Et c'est très difficile, quelquefois, de faire la part d'une dépression réelle et d'une situation d'une personne qui n'est pas en phase avec son désir, sa volonté ou ce qu'elle croit être justifié de sa vie. Il y a tout ça qui est en cause. Et puis, il y a des nouvelles pathologies, j'allais dire, plutôt psy, je veux dire, qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Oui, et ça, ce sont des pathologies émergentes.
Émergentes, oui.
Aujourd'hui, alors, vous racontez dans votre livre un petit peu vos tribulations chez les gens. Quel est le lieu le plus insolite dans lequel il vous soit amené d'aller?
Il y en a beaucoup. Peut-être Madame Rose, par exemple.
Alors, qui?
Madame Rose.
Pourtant, c'était une petite mémé avec des chapelets dans sa chambre.
Oui, mais enfin, ça, je l'ai su après. C'était rue Saint-Denis et un samedi soir. J'ai dû quand même, pas déplacer, mais demander à quelques jolies personnes de bien vouloir me laisser passer, parce que l'une d'entre elles me dit « Tu viens ?» Je dis « Non, moi aussi, je travaille. » Et donc, j'ai été jusqu'à cette dame. Et
alors, la rue Saint-Denis, avant, à Paris, c'était un haut lieu de la prostitution. Hein.
Bien sûr, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais en tout cas, ça l'était. Et j'arrive auprès de cette vieille dame qui était essoufflée et tout. C'est vrai que sur les portes, c'est marqué Lulu, Lapin, Mimi et la dernière Rose. Donc j'étais bien là où il fallait. Et cette femme m'ouvre la porte, essoufflée par une bronchite et un asthme important. Et je rentre dans la grotte de Lourdes, des Saintes Vierges partout, des crucifix, des fleurs et tout. C'était un petit peu particulier. Bon, j'ai fait face à cette situation et j'ai appris et j'ai même constaté qu'il y avait des liens extrêmement forts entre cette femme de 82 ans et les filles, dont une a remis son habit civil et a retiré son habit de travail pour pouvoir aller chercher les médicaments à la pharmacie le temps que je puisse attendre de voir si tout était en ordre.
Docteur Front, la suite est dans votre livre, une galerie de portraits, à peu près une cinquantaine de portraits, des visites que vous avez effectuées. C'est vrai que vous avez votre première vie d'urgentiste. Vous auriez pu rester urgentiste? Ou c'est trop de stress?
Ah non, c'est pas trop stress. Je pense que il y avait de l'adrénaline, mais j'étais pas plus stressé aux urgences médicales de Paris que, parce que là on était en équipe, il y avait un régulateur, on se parlait et tout. Là, quand j'ai démarré, c'est tout seul. Donc et puis aux urgences médicales de Paris, il y a un début, il y a une fin. On faisait 12 heures, 8 heures, 20 heures,
des vacations de 12 heures, en fait.
12 heures, 8 heures du soir, 8 heures du matin ou midi, minuit. Et après, quand c'était fini. Là, moi, c'est jamais fini, parce que derrière, il y a l'administration, derrière, il y a les patients qu'il faut rappeler, vous êtes seul. c'est pas la même chose. Alors maintenant, j'ai eu un associé, puis maintenant deux, nous sommes trois. Donc, mais j'ai travaillé 10 ans tout seul, c'est pas rien. C'est pas la même chose. Bon, ceci dit, ça c'est fini, c'est has-been, plus personne ne s'installera seul, sans doute à juste titre. Mais ce que je profite à cette occasion de dire un message qui me semble fondamental. Les maisons médicales, les maisons de santé, formidable, parce qu'il y a un accès peut-être plus facile, bien que moi, c'était porte ouverte, c'était open bar pendant 40 ans. Mais à condition que les médecins considèrent que ce sont leur affaire, leur cabinet, leur engagement, et non pas comme, justement, des vacataires, des prestataires de services. Ça me paraît essentiel. Alors évidemment, c'est un engagement qui est d'une autre nature, mais pour lequel, j'allais dire, revient en bénéfice, non pas l'argent, mais une vie exaltante.
Docteur Front, toute une vie pour eux, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Iconoclaste. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Voilà, c'est bien de parler avec des médecins de famille. Vous réécouterez cette émission qui s'écoute très bien en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de l'émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.